C'est donc le journal de la rédaction avec vous, Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. Peut-être un petit peu de lumière au bout d'un long tunnel, celui de la lutte contre le virus Ebola dans le cadre d'un essai clinique en République du Congo. Deux médicaments augmentent significativement le taux de survie des patients. Deux d'entre eux sont déclarés guéris par les autorités sanitaires. L'espoir se dessine donc, mais il faut rester prudent. Nous entendrons sur ce sujet la docteure Anne-Marie Pegg de Médecins Sans Frontières. Des questions se posent en Russie autour d'une explosion qui s'est déroulée jeudi dernier dans le nord du pays et qui a coûté la vie à 5 scientifiques. Des radiations 4 à 16 fois supérieures à la normale ont été observées. Nous tenterons d'y voir plus clair avec Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. 38 enfants surexposés à l'arsenic dans l'Aude, dans la vallée de l'Orbiel. C'est un nouveau bilan de l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Les habitants craignent que les inondations meurtrières d'octobre 2018 aient pollué les sols. Nous ferons le point avec Emeline Ferry. Nous avons la grande joie de vous annoncer que parmi les 4 cas confirmés d'Ebola de Goma, 2 sont guéris. C'est pour nous un message fort que Ebola est guérissable. Aujourd'hui, les médicaments sont là. Ces propos, ce sont ceux de Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises le confirment donc aujourd'hui. 2 malades ont pu vaincre le virus après 11 jours de traitement à Goma, dans l'est de la RDC. Une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Écoutons à ce sujet la docteure Anne-Marie Pegg, référente médicale sur les sujets liés aux épidémies et à la vaccination chez Médecins Sans Frontières. Elle était à Goma il y a encore 2 semaines. Pour elle, c'est une bonne nouvelle, à ceci près que les malades ne se présentent pas suffisamment tôt dans les centres de traitement. On l'écoute.
Il y avait beaucoup d'efforts et beaucoup de recherches sur les traitements spécifiques pour Ebola, bien sûr, mais aussi comment on peut améliorer les soins cliniques, niveau soins intensifs, niveau soins en support des patients. Et ça aussi, on a vraiment réussi à améliorer pendant cette épidémie. Ça donne un espoir pour les gens qui travaillent dans les centres de traitement. C'est souvent difficile pour les travailleurs de santé. Et ça donne un espoir pour les patients qui pensent avant que Ebola, c'est vraiment la peine de mort. Si on arrive dans les bonnes conditions tôt, c'est pas du tout ça. Et ça donne un espoir, un vrai espoir. Par contre, ça surmine l'importance et la nécessité que les patients arrivent dans les centres de santé. Mais c'est important que les gens arrivent tôt dans le cours de leur maladie. Il reste un délai entre 5 et 7 jours entre le début de ces symptômes et l'arrivée pour le traitement dans un centre de traitement. Et l'idée, c'est de réduire le plus que possible ce délai. Le plus haut se charge virale, le moins efficace les médicaments.
Propos recueillis par Margot Delpierre. L'Espagne déclare aujourd'hui irrecevable une demande d'asile formulée pour 31 migrants mineurs qui avaient été secourus en Méditerranée. C'est l'ONG espagnole Proactive Open Arms qui a recueilli ces migrants. Le capitaine du bateau a déposé hier lui-même la demande d'asile auprès de l'ambassade d'Espagne à Malte. Mais pour le gouvernement espagnol, il n'avait ni la capacité juridique ni l'autorité pour le faire. Selon la législation en matière de droit d'asile, la demande doit effectivement être présentée en personne par les migrants eux-mêmes ou par des représentants légalement accrédités. On rappelle que quelques 150 autres migrants secourus en Méditerranée centrale se trouvent actuellement à bord du navire humanitaire Open Arms de l'ONG au large de l'île italienne de Lampedusa. Malte et l'Italie refusent l'entrée du bateau dans leur port. C'est une affaire qui fait réagir en Israël. Les autorités du pays ont expulsé une travailleuse philippine et son fils adolescent, né en Israël. Cette travailleuse était arrivée en Israël en 2002 pour s'occuper d'une vieille dame, mais son visa, comme celui de nombreux étrangers, était conditionné au fait de ne pas fonder de famille. Une législation qui fait débat dans le pays où plusieurs manifestations se sont justement tenues en soutien aux travailleurs immigrés. Le reportage à Tel Aviv d'Alice Froussard, elle a rencontré une femme philippine également, qui est également concernée par cette législation.
Rani, 37 ans, est arrivée des Philippines en 2004 avec un visa temporaire, renouvelable 5 ans. Elle travaille comme aide à domicile dans une famille de Tel Aviv, mais les choses se compliquent quand elle décide d'avoir des enfants.
Quand je suis tombée enceinte, les autorités m'ont menacée de ne pas renouveler mes papiers. Ils m'ont dit de retourner aux Philippines avec mon enfant, mais je suis restée quand il est né, alors ils m'ont retiré mon visa.
Car le pays a besoin de main-d'œuvre, mais veut éviter à tout prix l'ancrage de ses travailleurs à long terme. Une loi les empêche même de créer une famille. Pourtant, Rani a eu 2 enfants. Aujourd'hui, ils ont 5 et 7 ans. Ils sont scolarisés en Israël, parlent hébreu, mais n'ont aucun statut légal. Alors la famille clandestine vit dans l'angoisse.
Parce qu'on a peur que nos enfants soient expulsés. Ils ont le droit d'être ici. Ils sont nés ici. Ils ont le droit de vouloir construire leur futur en Israël.
Jenna, elle, a eu plus de chance. Fille d'une travailleuse philippine, elle a été régularisée en 2007 suite à de nombreuses manifestations dans le pays. Depuis, elle se bat pour que ses collègues puissent aussi rester ici.
J'ai été dans la même situation que ces femmes. Alors c'est important pour moi de les soutenir. Même si de mon côté la bataille est terminée, on n'est jamais certain que ça ne changera pas. Beaucoup d'Israéliens ne se rendent pas compte de notre situation. Ils ont besoin de nous, de notre travail, mais on a le droit aussi d'avoir une vie. On peut tomber amoureuse, on peut avoir des enfants. Il faut qu'ils le comprennent. Les autorités israéliennes doivent trouver une solution. Renvoyer ces enfants dans leur pays n'en est pas une.
D'ici fin août, le gouvernement israélien prévoit d'expulser 50 d'enfants de travailleurs immigrés philippins.
Reportage signé Alice Froussard. L'aéroport de Hong Kong a connu aujourd'hui une 2e journée de chaos. Les vols au départ ont à nouveau été annulés, comme ça avait été le cas hier. Des dizaines de milliers de passagers n'ont donc pas pu partir. Juliette G s'est entretenue avec une militante du mouvement de contestation.
La ronde des manifestants pacifiques, c'est le nom que se donnent les Hongkongais réunis à l'aéroport. Depuis le début du sit-in, il y a une semaine, le lieu est devenu l'un des points centraux de la contestation. Lindy Guy, étudiante activiste.
L'aéroport est un espace international. Les manifestants pensent que la police va être plus prudente que lors des arrestations dans la rue. Ça a aussi une influence sur l'économie, car les manifestants empêchent les vols de partir ou les font annuler.
Sur les pancartes, des slogans tels que « Bienvenue à Hong Kong, la ville des gaz lacrymogènes », des références aux manifestations violentes du week-end dernier où une femme a pris une balle dans l'œil. Ce matin, la chef de l'exécutif Carrie Lam parle d'un état de panique et de chaos. Pour les manifestants, c'est le gouvernement qui est responsable de l'escalade de la violence.
La racine du problème vient des membres du régime. Ils essaient de pousser les gens à l'extrême. Quand ils marchent pacifiquement dans la rue, les policiers les poussent à bout et ils ne vont pas reculer. C'est ce qui amène les manifestants à utiliser la force et des moyens plus radicaux.
Les protestataires ont aligné les chariots à bagages et forment une chaîne humaine pour bloquer les passagers. Ils l'assurent, ils ne céderont ni à la violence, ni à l'indifférence du gouvernement.
Et de leur côté, les autorités de Pékin accentuent la menace d'une intervention au travers de vidéos diffusées par des médias officiels qui montrent des forces se massant à la frontière de la région semi-autonome. Une manifestation à Brasilia aujourd'hui contre la politique du président brésilien Jair Bolsonaro. Ce sont quelques 3000 femmes membres de tribus autochtones de tout le Brésil qui se sont rassemblées pour dénoncer des politiques qu'elles qualifient de génocidaires. Le gouvernement brésilien envisage, on le sait, d'autoriser l'exploration minière dans les territoires indigènes. Pour cette première marche rassemblant uniquement des femmes de ces tribus, les manifestantes ont arboré des costumes traditionnels. Elles ont marché derrière une pancarte indiquant « Résister pour exister ». De nombreuses questions se posent aujourd'hui en Russie après cette explosion qui s'est déroulée sur un site militaire du nord du pays. C'était jeudi dernier. 5 scientifiques ont perdu la vie dans cette explosion, donc près de la ville de Severodvinsk. Le ministère de la Défense affirmait dans un premier temps qu'aucune substance toxique n'avait été libérée, mais les services météorologiques ont observé des radiations 4 à 16 fois supérieures à la normale. Des responsables russes ont finalement reconnu que cette explosion était bien de nature nucléaire. Le test d'un missile à propulsion nucléaire a mal tourné, mais les autorités nient cependant l'existence d'une grave contamination. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Vyacheslav Soloviev, directeur du centre nucléaire fédéral russe, a confirmé l'échec du test d'un missile équipé d'une source d'énergie utilisant des matériaux radioactifs, incluant de la matière fissile et des radioisotopes. Pour les experts occidentaux, comme pour les médias russes, il s'agirait du missile de croisière Bourevestnik, oiseau de tempête en français, que Vladimir Poutine avait décrit en début d'année comme une arme de portée illimitée capable de franchir tous les systèmes d'interception. Cette explosion a causé une hausse temporaire de la radioactivité qui, selon les autorités, autorités à retrouver un niveau normal en quelques heures. La navigation, la pêche et la baignade sont interdites pour une durée d'un à trois mois dans certaines zones. Expert de l'Institut pour la recherche nucléaire de Moscou, Boris Joukov, estime que les sources d'énergie isotopiques utilisées dans l'industrie aérospatiale ne présentent habituellement pas de danger pour les utilisateurs. Les niveaux de radioactivité n'ont rien de comparable avec ceux d'accidents sérieux dans les réacteurs, précise-t-il encore. Une enquête doit déterminer les causes exactes de l'accident pour en éviter d'autres à l'avenir, mais cela ne semble pas avoir entamé le moral des responsables russes. Moscou a déjà souligné que les tests de ces nouveaux armements seront menés à bien. Nous remplirons les devoirs que notre patrie nous a confiés, a même déclaré Alexei Likachev, patron de Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique.
Jean-Didier Revoin. 38 enfants ont été surexposés à l'arsenic dans l'Aude, dans la vallée de l'Orbiel. C'est un nouveau bilan de l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Ces enfants présentent des taux d'arsenic par gramme de créatinine supérieurs à 10 microgrammes par gramme, c'est la valeur de référence. Âgés de 11 ans ou moins, ils sont scolarisés dans des écoles à proximité de l'ancienne mine d'or et d'arsenic de Salsigne, qui était la plus importante d'Europe. Les habitants craignent que les inondations meurtrières d'octobre 2018 aient pollué les sols avec des coulées d'arsenic. C'est un reportage d'Emeline Ferry.
Chez Benoît et Lucas, les symptômes sont apparus quelques mois après leur entrée à l'école de Lastour, explique leur maman Cindy.
Des maux de ventre, des maux de tête, des diarrhées, il y a eu aussi beaucoup de problèmes de sommeil. Vous avez mal au ventre, tout ça, donc il n'avait pas beaucoup d'appétit. Là, ça revient un peu, mais de temps en temps, il y a toujours quand même quelques diarrhées, quelques maux de ventre.
Même inquiétude chez Marlène, maman d'une petite d'à peine 6 mois, mais qui présente déjà un taux d'arsenic deux fois supérieur à la moyenne.
Elle est en parfait état, donc c'est un problème qui dort en fait. Son petit organisme qui est ultra chargé d'arsenic. Et puis tout ça dort et ça explosera quand ça explosera.
Des parents qui s'inquiètent des conséquences à long terme, l'Agence régionale de santé reconnaît les risques de cancer si l'exposition dure pendant des années. Mais pour le docteur Jean-Jacques Morfois, directeur général adjoint de l'ARS en Occitanie, il ne faut pas paniquer à la vue de ces résultats.
Ce qui est important de rappeler, c'est que ces résultats qui sont au-dessus de la norme habituellement admise en population générale, ne sont pas le témoignage d'une intoxication aiguë à l'arsenic, mais simplement le témoignage du fait que ces personnes ont été en contact dans les 10 derniers jours avec de l'arsenic.
Il recommande par exemple aux familles concernées de ne pas manger de fruits et légumes qui auraient pu être en contact avec de l'eau contaminée, de ne pas laisser les enfants jouer avec la terre. Pas suffisant pour les parents qui ne se sentent pas écoutés. Ils ont prévu un rassemblement vendredi devant l'hôpital de Carcassonne pour interpeller les autorités.
Une nouvelle permanence de député a été dégradée. Cette fois-ci, c'est celle de Loïc Kervran, député à La République En Marche du Cher, qui a été tagué. Les inscriptions GJ, Justice et C'est ta faute ont été inscrites en rouge sur la porte du local. L'élu annonce avoir porté plainte et il affirme sur Twitter qu'il continuera à voter ou à ne pas voter, comme pour le CETA, écrit-il. En conscience, chaque texte. Ces dernières semaines, plus d'une quinzaine de permanences de parlementaires de la majorité ont été dégradées. Ce matin, à Guéret, dans la Creuse, ce sont des affiches prenant pour cible le député Jean-Baptiste Moreau qui ont été placardées dans les rues de la ville. Des affiches qui accusent l'élu notamment de haute trahison. Il a annoncé son intention de porter plainte pour diffamation. C'est un document d'une quinzaine de questions qui est envoyé à partir d'aujourd'hui par la Poste à tous les maires de France. L'objectif, déterminer quand, comment et dans quelles circonstances des incivilités, voire des actes de violence, ont pu être commis à l'encontre d'élus communaux. Cette consultation a été lancée par la commission des lois du Sénat après la mort du maire de Signes le 6 août, renversé par un fourgon alors qu'il luttait contre le déversement de gravats sur un terrain privé de sa commune. Bonsoir Nicolas Balu.
Bonsoir Ilan.
Cette grande consultation va durer jusqu'au 15 septembre.
Oui, et sur Internet, également sur la plateforme du Sénat, 320 maires ont déjà contribué depuis ce matin. Dans quelles circonstances les faits se sont déroulés? Y a-t-il eu dépôt de plainte? Avez-vous bénéficié d'une protection juridique ou d'une aide de l'État? Est-ce que vous avez le sentiment que ces agissements deviennent de plus en plus fréquents? Quelles actions doivent être menées? Voilà quelques-unes des 17 questions. Parmi les maires qui ont déjà répondu, Alexandre Bouchier de la commune de Saint-Denis-les-Sens, une commune de 700 habitants dans l'Yonne. En 18 ans de mandat, il a connu 4 cas limites d'agression ou d'outrage. Il aurait aimé un questionnaire un peu plus fouillé.
Il a le mérite d'exister, mais je le trouve un peu léger. Voilà, concrètement, je pense qu'on aurait pu aborder en profondeur les choses, parce que moi j'estime aussi que dans certains cas de figure, le positionnement de l'élu peut aussi poser problème, par le fait qu'on lance des signaux qui peuvent être aussi à titre d'agressivité, donc faire monter l'agressivité chez le pétitionnaire, ça peut être aussi un facteur déclenchant. Donc dans le cadre des relations des uns avec les autres, il faut toujours être vigilant.
Comprenez, il faut une meilleure formation des maires. L'édile propose également plus d'instructions civique, mais il n'a pas eu la place de l'écrire, dit-il, et plus de policiers, ça, il a eu la place de l'écrire. Le questionnaire a le mérite de libérer la parole des maires sur le sujet, mais visiblement une parole encore incomplète. Et c'est à partir de ces réponses incomplètes et après une série d'auditions que le Sénat va élaborer des recommandations pour la mi-octobre. Les parlementaires seront en pleine discussion sur le projet de loi concernant l'exercice du mandat des élus.
Merci à vous Nicolas Ballu. La météo de demain ressemble un petit peu à celle d'aujourd'hui, risque d'avoir sur une bonne partie de la moitié nord du pays. Côté température, ça part demain matin de 16 dans le Pas-de-Calais pour monter jusqu'à 30 dans les Alpes-Maritimes. Édition préparée avec Jean-François Braun, réalisée à la technique par Emmanuel Morse-Duncan.